Un maîtrisiste, bonsoir. Voici une nouvelle émission de 13 passions animée, créée par Roger Bouichou et animée par Denis Arcas et Roger Bouichou lui-même. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Elian. Bonsoir, auditeurs et auditrices. Et bonsoir, Denis.
Allô ?
Denis ?
Oui, bonsoir, Denis. Oui. Est-ce que tu nous entends ?
Ah oui, j'ai une coupure.
Non, tu es à l'antenne.
Est-ce que vous m'entendez-vous ?
Oui, oui, très bien.
Oui, on t'entend très bien.
Très bien, bon, maintenant bon, si je vous alors, bonsoir à toutes et à tous, évidemment, bonsoir Elian, bonsoir président général, commandant Roger Bouichou. Voilà, donc oui. on peut démarrer, nouvelle émission.
On peut démarrer. Bon, bien, on va commencer, Denis, par la nouvelle qui est tombée, là, puisque les Dragons de Catalans sont de retour sur Bisport. Ils ont donc passé un accord. Et dès jeudi, pour l'ouverture de la Super League, eh bien, jeudi 10 à 21h, vous pourrez suivre en direct sur Bisport Saint-Terence dans le Catalan, et cerise sur le gâteau, sur la tarte aux fraises, j'adore, hein, eh bien, samedi à 21h, toujours sur Bisport, eh bien, vous aurez Euderfil Toulouse Olympique. Voilà. Et puis, dans quelques
Comment,
temps...
Le premier match du Toulouse Olympique en Super League...
Oui, monsieur.
Ah, extraordinaire.
Oui, monsieur. C'est à 21h sur Bisport. Ils ont fait un accord. Je crois qu'il va y avoir 9 matchs des Dragons Catalans à domicile qui sont retransmis. Et dès qu'ils joueront en Angleterre, ça passera sur Sky. Automatiquement, ça sera sur Bisport. Quand à Toulouse, il faut attendre des précisions pour voir ce qui va se passer. Et puis, bientôt, la Super League va reprendre. On va avoir des matchs, des comment ils appellent ça, des origines.
La NRL,
oui, la NRL, les origines, c'est-à-dire, Denis, toi, si tu vas t'en rappeler, pouvoir, dis-le.
Alors, je sais pas, moi, je tu sais, moi, l'anglish. La NRL va reprendre au mois de mars, mais avant, il va y avoir...
Voilà, il va y avoir ce match chaque année entre les aborigènes et les Australiens, ouais. Un match chaque fois extraordinaire. Donc, allez, ça va reprendre.
Monsieur Camin, Frédéric est en ligne.
D'accord. Ouais. Plus les matchs du week-end que vous êtes sur les Marseillettes, voilà, les maîtrises, vous êtes au paradis du 13. Voilà, Denis. Alors, Denis, deux invités aujourd'hui. Frédéric Amel pour Carcassonne, parce qu'il y a quand même dimanche, faut pas l'oublier non plus. Hein. Carcassonne, Avignon. Et après, nous aurons Jean-Paul Marquet, parce qu'il y a également dimanche, il sur tête, Villers-Aragon, qui n'a plus droit. Alors, Denis, je te laisse... dans les mains de Frédéric Amel.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Frédéric.
À tous. Voilà, bon, donc Frédéric, voilà, enfin le terrain est de retour, puisque, bon, je pense que tu vas nous dire tout le plaisir que vous avez de retrouver les pelouses, puisque, rappelons-le quand même, pour ceux qui ne suivent pas le rugby à 13 de près, aussi bien Carcassonne de 13 qu'Avignon, bon, ça tombe bien, vous n'avez pas joué, vous n'avez pas pratiqué du rugby à 13, un match, vous n'avez fait que vous entraîner, depuis, si je ne me trompe pas, hein, depuis le week-end du 11 et 12 décembre, c'est-à-dire qu'à quelques jours près, ça fait 2 mois que vous n'avez pas joué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, Fred?
Ben écoutez, il a fallu qu'on revoie tous nos plans, puisqu'on avait préparé la reprise contre Limoux qui devait être le 8 janvier. Donc les garçons avaient été très sérieux durant les fêtes de fin d'année. Donc il y avait un programme, ils avaient eu 10 jours de congé, mais un programme leur avait été donné. Et puis on avait repris et on avait vu que tout avait été suivi. Donc on était prêt à jouer ce match-là. Et puis ce match a été reporté. Donc on attendait après la Coupe de France. Puis la Coupe de France a été annulée. Donc... on est allé de surprise en surprise et puis qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on s'adapte et on essaye d'être le plus réactif possible et donc de trouver une nouvelle planification, un nouvel élan, parce que c'est vrai que ça match de garder la concentration qu'il doit y avoir à tous les entraînements et garder la motivation intacte des garçons, c'est toujours le plus difficile. Malgré ça, on a réussi à remobiliser tout le monde et puis là ça fait 15 jours que qu'on est vraiment dans le vif du sujet et là maintenant il faut jouer parce que les garçons en ont envie et puis je pense que bientôt ils vont se manger les uns les autres si on n'a pas un match officiel, donc il est temps de jouer.
Alors, Fred, avant de parler de l'attitude des joueurs, de comment ont vécu cette période des joueurs, vous, l'encadrement, il vous a fallu, je suppose, adapter vos entraînements, pour juste parce que, bon, c'est vrai qu'en temps normal, bon, ben, quand vous entraînez, vous entraînez pour le week-end, pour jouer, donc vous savez, vous avez votre plan de jeu de la semaine, etc., en fonction de l'adversaire, en fonction du match dans tous les cas que vous allez jouer le week-end. Or là, pendant 2 mois, il a fallu pratiquer toutes les semaines. Comment vous avez fait? Vous avez vu, il a fallu peut-être que vous, pour que les garçons viennent s'entraîner en sachant que le dimanche, ils ne joueraient pas.
Oui, alors, après, on a des garçons, c'est des compétiteurs, et puis on est semi-professionnels, et puis je peux vous dire qu'ils ont des attitudes de professionnels, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Le tout, c'est de garder la concentration et la motivation au plus haut. Donc ça, c'est à nous de repenser les entraînements afin qu'ils soient un peu plus intéressants. Mais on est obligé aussi de passer sur une certaine forme de réathlétisation et de garder toute l'énergie et tout le potentiel physique qu'on a besoin dans cette discipline. Donc là, c'est Quentin Raghini, le préparateur physique, qui s'est creusé la tête pour pouvoir garder les joueurs au top de leur forme. Donc là, il a fait un gros travail parce qu'il avait une planification qu'il avait établie. Il a fallu qu'il chamboule tout pour se réadapter et réadapter les joueurs à cette situation-là. Et avec Alan Walsh, il a fallu qu'on repense nos séances, mettre des fois un peu plus de fun à l'intérieur pour pouvoir garder le plaisir d'être à l'entraînement, mais tout en essayant de... Voilà, on avait prévu un entraînement commun avec le Toulouse Olympique, ça n'a pas pu se faire, donc on a fait des oppositions avec les juniors, on a fait des matchs entre nous évidemment, donc voilà, au fur et à mesure, les semaines passent, on essaye de progresser sur des points faibles que l'on avait, on remet les petits bobos en route, et voilà, au final, on a des garçons qui sont prêts à jouer dimanche.
Alors, je sais que les entraîneurs, vous êtes très prolifiques, et en particulier ceux de Carcassonne 13. Est-ce que vous avez profité de cette période, alors, pour mettre au point, je veux dire, pour affiner votre système de jeu? Je ne te demanderai pas des secrets, mais voilà, je suppose que vous avez, sur certains points, affiné des choses.
Oui, on a mis le curseur sur certaines choses qu'on pensait devoir travailler et surtout persévérer sur certains points et améliorer d'autres. Donc on a insisté sur certaines choses pour que les garçons en prennent vraiment conscience. On espère qu'il y a du mieux. Après, le seul souci, c'est qu'on repart à zéro, quoi. Donc quand vous avez de la confiance, on a des certitudes aujourd'hui sur notre jeu. On a de la confiance, mais la confiance, elle se conserve en jouant. Il faut le rythme, il faut enchaîner les matchs, il faut enchaîner les performances pour pouvoir justement avoir cette confiance au fur et à mesure. Là, ça fait 2 mois, donc oui, il y avait eu une belle victoire contre les Catalans. On avait fait 3 sorties qui avaient été bien. Donc là, on repart un petit peu à zéro, même si on a des certitudes sur notre force et sur ce qu'on est capable de faire, on le sait, mais il va falloir le reproduire et donc monter crescendo durant le match pour pouvoir être performant dès dimanche.
Alors, les joueurs, comment ils se sont comportés? Bon, tu le disais, ce sont des compétiteurs, mais il n'y a pas eu, à certains moments, des moments un peu de ras-le-bol, quoi, de s'entraîner sans jouer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des joueurs qui, des fois, ont dit, bon, ce soir, j'ai pas envie de venir, je ne viens pas, etc.
Non, alors, ne pas avoir envie de venir, c'est une chose, ne pas venir, ça en est une autre. Non, malgré tout, après, c'est vrai que des fois, ben oui, c'est rébarbatif de répéter les gammes pendant qu'on pourrait d'habitude pratiquer un peu plus le jeu, mais il n'a pas lieu de se remettre sur des exercices physiques pour améliorer sa préparation, mais forcément que des fois, eh ben, c'est un peu plus contraignant, mais malgré ça, les joueurs le font et ne rechignent pas, et voilà, parce que c'est dans l'intérêt du groupe, c'est toujours ça le plus important.
Denis?
Ah, oui, Roger, vas-y, Roger.
Moi, je vais poser, je fais un petit bilan, une question à Frédéric Hamel. Bon, si on fait le bilan de ce championnat de France élite 1, bon, il y a les ronds catalans avec les renforts maintenant de la Super League qui vont revenir au plus haut niveau. Il y a Lézignan, Carcassonne, Limoux, et puis on voit que Villeneuve-sur-Lot remet le nez à la fenêtre, ainsi qu'Albi et Avignon. Finalement, c'est un championnat plus physique, plus dur, plus régulier que la saison dernière.
Oui, oui, oui. Après, les équipes, toutes les équipes se sont renforcées. Alors certaines avec des noms ronflants et de sacrés joueurs. Et c'est vrai que quand on pense de suite à Lézignan, avec Jason Baïtieri en plus, et James Maloney évidemment au milieu de ça, Chris Mandinon, c'est des joueurs qui n'ont plus rien à prouver à personne, et donc ça s'attire le haut. Vous avez Nathan Pitts qui est arrivé aussi à Albi, Villeneuve, Olivier Jean-Jacques est en train de mettre sa philosophie en place, et on voit que les jeunes poussent. Je pense à ce Dimitri Biscaro qui est de plus en plus performant tous les dimanches. Donc oui, c'est un championnat qui est ouvert, avec les Dragons qui vont redescendre. Là, je vois le nombre qui descend ce week-end. Forcément, ça n'aura pas la même gueule sur la feuille de match. Et avec les jeunes talentueux qu'ils ont, forcément que cette équipe va être prendre très au sérieux, mais on n'en doutait pas. On le savait dès le départ, on savait qu'il y a une équipe qui démarre le championnat et puis il y en a une autre qui le termine. Et forcément, on compte dessus. Donc ouais, c'est un championnat ouvert et tant mieux, parce que sinon ça serait toujours rébarbatif. On parle chaque fois de ce championnat en disant c'est le championnat de l'Aude, mais non, on voit que Lyon a perdu à Villeneuve, on voit que Albi est venu embêter les Ignans au Moulin, et voilà, c'est jamais facile de s'imposer contre ces équipes-là, et ça serait galvauder ce championnat que de dire ce que je veux dire, il n'y a que trois équipes dans ce championnat. Non, c'est faux, il est ouvert, et c'est tant mieux pour le rugby à 13.
Denis.
Oui, moi je reviens à cette période bon, que vous venez de vivre, et bon, j'ai pensé, bon, mais pas simplement pour Carcassonne, hein, mais c'est vrai que je me suis imaginé quand même que pour les étrangers en particulier, aussi dans tous les clubs, mais bon, puisqu'on parle avec toi de Carcassonne 13, c'était peut-être plus compliqué de vivre cette période en plein hiver, alors que chez eux c'est l'été, ne pas jouer alors qu'ils viennent pour jouer, bon, pas de famille, enfin, tout ce qui leur manque, parce que bon, les joueurs français, bon, ben, ils rentrent, ils travaillent, ils ont leur boulot, la famille, etc. Peut-être dans notre période, pour moins que ça, on en a vu prendre l'avion et rentrer au pays. Or là, a priori partout, et donc à Carcassonne, tous les joueurs, malgré cette longue coupure, tous les joueurs étrangers sont restés. Et ça, peut-être, ça montre que le rugby à 13 élite, l'intérêt de ce rugby pour ces joueurs-là, à monter de niveau, puisqu'ils ont quand même, ils sont prêts à faire des sacrifices pour y jouer.
Oui, tout à fait. Alors après, je ne connais pas la gestion des joueurs étrangers dans les autres clubs. Nous, on essaye de les intégrer le mieux possible. Alors il faut savoir que par exemple, les deux Fidjiens sont dans la même maison, les deux Australiens sont dans la même maison aussi. On a la chance d'avoir Vava Etulagi qui est en France depuis un certain nombre d'années. Et donc, l'acclimatation se fait naturellement. On essaye de les intégrer au mieux. Durant cette période où on n'a pas pu jouer, on a le club, les dirigeants et Odile Mikulo ont mis en place des cours de français donc, depuis le début de l'année. Il y avait un cours chaque semaine. Maintenant, depuis le mois de janvier, il y en a deux. Donc, ils ont deux fois trois heures de français par semaine. Donc, tout ça, c'est pour faciliter l'intégration. Et après, voilà, nous, ces garçons-là, on essaye de les intégrer comme s'ils faisaient partie de la famille carcassonnaise. Et on sait la difficulté quand on est éloigné de chez soi, ce que ça représente. Donc, ces joueurs-là, on en prend soin parce que si vous êtes bien dans votre tête, forcément, vous êtes bien sur le terrain. Et ce que l'on veut, c'est ça, c'est avoir de bons joueurs, mais aussi avoir de bons garçons avec une tête bien faite et surtout qu'ils n'aient pas le mal du pays et qu'ils soient bien ici. Ça, c'est le plus important.
Oui, alors, donc, ben, ça montre aussi quand même ouais, une certaine, un grand pas en avant au niveau de la professionnalisation des clubs, et donc de Carcassonne en particulier, puisqu'on parle de Carcassonne, parce que c'est vrai que dans le passé, s'il avait peut-être, je ne suis pas sûr que des périodes comme ça, les clubs, et le tien en particulier, auraient peut-être su le gérer de cette même façon. En mettant en place des choses comme tu as dit. Donc ça monte parce que on parle parfois du professionnalisme, c'est pas que sur le plan sportif, et le professionnalisme c'est au niveau de tout un club d'une façon d'être, d'une façon de gérer.
Exactement, c'est un tout, c'est un ensemble, et aujourd'hui on a des dirigeants dans ce club qui sont comme les joueurs très performants. C'est-à-dire que les gens se démènent et se débattent et multiplient leur énergie afin que ce club rayonne et afin que ce club soit bien. Pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, ils font d'énormes sacrifices et travaillent énormément au développement du club. Donc avec l'appui de la municipalité, des institutionnels, on essaye de faire de mieux en mieux. Alors, on peut toujours mieux faire, hein, et on regarde toujours vers le haut. Donc, forcément, que plus ça va aller et plus on tend vers ce professionnalisme. C'est le but du club et c'est le but, évidemment, au niveau sportif, d'être performant le plus possible chaque dimanche. Mais c'est exactement la même chose et peut-être encore plus chez nos dirigeants.
Alors, Fred, voilà, bon, on a un peu regardé le passé. Maintenant, l'avenir, voilà, ça y est, ça arrive. Et dimanche, voilà, les Avignonnais qui sont là, qui... Ils débarquent, bon, ils ont vécu la même période que vous, donc bon, il y a eu des clubs qui ont pu démarrer il y a 15 jours, qui ont fait une journée, puis qui se sont arrêtés la semaine dernière, etc. Bon, c'est pas le cas d'Avignon, donc vous êtes dans la même situation. Alors, ce match, est-ce d'abord, première question, est-ce que vous avez tiré une leçon, ben, vous avez pas, il vous semble que ça avait un rapport, le fait que, par exemple, Lézignan a eu du mal à domicile il y a 15 jours pour la reprise face à Albi, et qu'ils aient gagné dans les 20 dernières minutes après avoir été menés et malmenés pendant une heure, et que Limoux ait perdu à Villeneuve. Donc, est-ce que quelque part ces difficultés vous interrogent à vous pour ce match de dimanche à 16h?
Alors après, on regarde, hein, ce qui se passe ailleurs. Évidemment qu'on est un peu surpris des résultats et peut-être des performances qu'il y a eu. Mais après, si on y regarde de plus près, moi je trouve que Albi a été très agressif, a su attaquer, jouer tous les coups à fond et c'est bien. Mais Lézignan, au final, a su répondre, faire le drone pour pouvoir bien finir. Et après, Villeneuve sur l'autre, on sait que c'est très difficile de toujours aller gagner là-bas. Ça reste une performance d'aller gagner à Villeneuve sur l'autre. Et c'est jamais évident. C'est jamais évident. Et là, Limoux était peut-être un peu moins bien ce jour-là. Mais bon, après, je ne me fais pas de doute sur le potentiel des Rouges et Noirs. Je sais qu'ils seront bien, mais c'est voilà, un petit panneau qui nous sert à nous, en nous disant attention. Mais bon, là, je fais surtout confiance à mes joueurs qui le savent, qui savent pertinemment que le match d'Avignon ne sera pas facile. Hein. Aucun match de rugby à 13 n'est facile. Et si on le galvaude avant de le voir jouer, mais forcément, on se trouve en difficulté. Donc là, je compte sur eux, sur leur concentration pour aborder ce match avec justement le professionnalisme dont on a besoin pour ce genre de rencontre.
Alors, vous aviez gagné à Avignon lors de la première journée, hein, 25-18. Donc... ça avait été une belle performance de gagner au Parc des Sports d'Avignon, un match qui avait été quand même assez serré. Bon, vous n'étiez pas dans les mêmes dispositions qu'aujourd'hui, l'effectif a un peu évolué, mais ces Avignonnais, on sait que chaque année, ils posent des problèmes. On se souvient même de la demi-finale l'an dernier, hein, où ils vous avaient posé des problèmes. Donc je suppose que quelque part, est-ce que vous êtes favori parce que vous jouez à la maison, ou est-ce que c'est du 50-50?
Oh, je ne sais pas, au niveau des statistiques, logiquement, on doit être favori. On est chez nous, on est devant au classement et on avait gagné chez eux, mais je vais me prendre l'étiquette de favori, c'est pas. Ça change rien sur la bord du match. Mais après, voilà, c'est une équipe qu'on prend très au sérieux, avec un staff, avec Renaud Guigues, un entraîneur qui a plus rien à prouver, lui non plus. Mais des joueurs, voilà, ils sont complets dans toutes leurs lignes. Ils ont des avants puissants, que ce soit Durandal, que ce soit Romain Prouvé en deuxième ligne. Ils ont ce Fidjien, la Piocessi, qui est extrêmement dur et qui a de très bonnes lignes de course. Et puis après, ils ont une charnière, que ce soit Olivier Arnon avec ce Payne qui marque beaucoup d'essais, qui est un perforateur de défense, qui est très opportuniste, qui va très vite, une bonne vision du jeu, des jeunes qui se greffent à tout ça et qui sont performants. Ils ont ce talonneur, Fabien Julien, qui est très explosif, qui casse la ligne au moins deux fois par match. Donc oui, c'est une équipe qui va nous poser des problèmes, qui va nous poser des questions, à nous de trouver les clés en défense et en attaque pour pouvoir les battre.
Alors, moi je vais terminer avec ton équipe. Je sais que tu ne vas pas me donner la compo de l'équipe, mais bon, ça peut être un avantage, cette longue coupure, c'est que tu dois avoir la totalité de ton effectif disponible et que tu dois avoir des problèmes de riches.
Ben honnêtement, oui, je me suis creusé la tête et j'ai arrêté l'équipe il n'y a pas encore il n'y a pas très très longtemps. Je ne l'aurais pas donné hier, puisque hier encore j'avais des doutes, parce que j'ai un effectif qui est de qualité, les blessés se réduisent au fur et à mesure. Il ne reste plus que Vava et Tulagi, qui en a pour une semaine ou deux, mais dans une semaine, peut-être que contre nous, il va pouvoir jouer, ou ça sera contre Albi, donc il n'est pas loin du retour. Il n'y a que Mathieu Kenny qui ne peut pas jouer encore, qui a eu une petite incision qu'il a fallu, qu'il faut laisser soigner, mais donc il ne pourra pas être là ce week-end. Mais après j'ai pratiquement tout le monde. J'ai perdu Lucas Rodriguez par contre pour la saison, puisqu'il s'est fait les croisés au niveau du genou, et donc lui il a terminé sa saison, il s'est fait opérer à la succès.
Allô, attends, oui, excuse-moi Fred, parce que tu peux parler un peu plus fort, parce que là tu disais qu'il y avait un garçon qui s'était fait les croisés, j'ai pas...
C'est Lucas Rodriguez.
C'est une mauvaise nouvelle, ça, pour
ouais, lui et pour le un junior contre Barou. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est un garçon qui est en pleine progression et qui aurait fait encore une paire de matchs en première cette saison. Et voilà, donc bon, ça fait partie de la vie d'un groupe. Donc il est jeune, il va se remettre et il reviendra encore plus fort, ça j'en doute pas. Donc oui, après on avait des problèmes de riches, donc c'est très bien. Je préfère me poser la tête dans ce sens que dans l'autre. Donc voilà, on a arrêté une équipe, on espère que les choix seront les bons. Et puis voilà, mais la concurrence n'a jamais été aussi rude, parce que j'ai des joueurs qui sont vraiment très proches les uns des autres, très proches les uns des autres, et c'est encore plus dur de faire les choix. Voilà.
Alors, je laisserai conclure Roger. Juste une question, Fred, concernant les 8-19, est-ce que pour là aussi, Pardon ?
Allô, ça n'a pas parlé.
Continue, Denis, continue.
Oui, non, juste une question, Fred, ce sera la dernière pour moi, c'est que pour les U19, est-ce, là aussi, la période a été difficile. Là aussi, au niveau effectif, vous n'avez pas perdu de joueurs, il n'y a pas des joueurs qui sont partis pratiquer d'autres sports.
Non, les joueurs sont restés là. Après, voilà, Teddy Sadaoui et Amar Sabri font un boulot remarquable, et on a su garder tout leur aura pour donner des séances intéressantes à ces garçons-là, et donc non, ils sont là, ils sont motivés, et là, il y a encore un groupe très étoffé pour affronter cette équipe de l'Avignon, donc il y aura aussi un joli match en 2019 à 14h du match.
Roger, bon...
Non, c'est bon, Denis, c'est bon.
Eh bien, merci, Fred.
Voilà, on aura l'occasion de le retrouver... Et sur l'antenne de Radio Marseille, on rappelle que ce match, eh bien, vous pourrez le suivre en intégralité, et avec Denis Arcas et un certain Roger Bouichou, qui sera là pour donner quelques petites bêtises, peut-être.
Merci Frédéric. Voilà. Donc,
merci Frédéric.
Le rendez-vous, c'est 16h. 16h, 14h pour les juniors, et puis si encore, il y a peut-être des places, je ne sais pas, il y a un repas à midi sous la structure réceptive, donc avec le Friginade de Bérail, dont je ne sais pas s'il y a encore des places, mais si vous avez envie de manger un Friginade, vous pouvez téléphoner encore ou adresser aux dirigeants.
Et un bon Friginade en plus, oui.
Je ne sais, peut-être qu'il n'y a plus de place, hein, je dis ça.
Je crois que
voilà, on verra donc dimanche, Roger, comme tu le disais, à partir de 16h à Domecq, comment va se comporter cette équipe de Carcassonne pour cette, on va dire, ce nouveau début de saison. Alors sachant que la semaine, j'ai pas voulu discuter avec Fred Camel, mais le week-end suivant, c'est le déplacement à Limoux. Donc il faut être de très vite dans le bain de part et d'autre.
Ah oui, de voilà. Côté de Nîmes. Hein. D'autant plus que Limoux, ils n'ont pas valeur fait à Villeneuve, là, et alors ça risque de faire du bruit. Allez, il y a une petite pause publicitaire pour nos partenaires, et après on se retrouve avec Jean-Paul Marquis. On va parler de VAN Aragon, qui a un match très, très, très difficile du côté d'Ille-sur-Tête.
C'est parti.
Le rugby à 13 vous est présenté par Restaurant La Barbacane, depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Assurance, Philippe Ten et Jérôme Dupin, agent général Alliance, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins. Auto, habitation, santé, financier, assurance, Alliance, cabinet Ten et Dupin, 295, chemin de Mâquins, ZI La Bourriette à Carcassonne, près de Décathlon. Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Et nous retrouvons Denis Roger et Jean-Paul Marquet.
Eh oui, Jean-Paul Marquet, puisque nous allons parler de Villerien à
Rogon
13. Bonjour
Jean-Paul Marquet. Bonjour.
Bonjour Jean-Paul.
Roger, bonjour Denis. Bonjour tout le monde.
Alors il n'était pas au courant, hein, Roger.
Pardon, hein?
Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de l'interview.
Ouais, je ne savais pas. Bon, c'est pas grave, allez.
Il dormait.
Presque, je faisais la sieste prolongée.
Voilà. Alors Jean-Paul Marquet. Alors, oui, cette équipe de Villegayen est inquiétante. Contre Pia, elle perd un match qu'elle aurait pu gagner. Et contre Antègue, elle gagne un match qu'elle aurait pu perdre. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que c'est difficile à Villegayen d'avoir des victoires, hein? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, le problème de l'équipe en ce moment, et tout le monde espère et souhaite que ça change, c'est que on met beaucoup d'envie. Le problème, c'est que l'envie, si on ne maîtrise pas comme il faut le sujet, ben, on tombe les ballons, on fait des fautes, de là on s'énerve, et ça, malheureusement, ça n'arrange rien. Donc aujourd'hui, le problème principal de l'équipe, c'est beaucoup trop de fautes dans le jeu, quoi. Parce que donc du coup, on remet en permanence le ballon à l'adversaire qui se gêne pas de nous châtiller souvent immédiatement, quoi.
Non, mais quel soit le remède de ce système-là, parce que bon, c'est récurrent à chaque match.
Oui, c'est tout à fait. Et bon, je sais que Vincent fait tout, prise de conscience, essayer de travailler davantage la maîtrise du ballon. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Bon, alors, on sait très bien que ça peut changer du jour au lendemain, et on l'espère, mais ouais, là, en ce moment, c'est un mal assez récurrent. Et c'est d'autant plus gênant que ben, on n'est pas supérieur suffisamment pour se permettre ce genre de faute. Alors, de temps en temps, ça passe, et de temps en temps, comme Pierre, ça passe pas, parce que on marque plus d'essais, mais on devrait être largement au-dessus, se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans le match. Pour ne pas être à la merci d'une dernière mauvaise passe, un mauvais ballon, une mauvaise réception qui nous met en difficulté, voire nous faire perdre comme ça a été le cas contre Pia. même si Pia quand même avait un jeu plus quand même plus lié et... mais bon, c'est un match qu'on pouvait gagner quand même malgré tout. Le plus inquiétant c'est Entraigues quand même, parce qu'Entraigues, même s'ils ont une jolie équipe, c'est pas une équipe qui devrait inquiéter le VAR, quoi, hein, avec l'effectif qu'on a. Voilà.
Alors on a l'impression qu'il manque un patron dans cette équipe sur le terrain.
Oui, effectivement, on dit toujours ça, qu'il manque un patron, un gars qui remette un peu les choses dans l'ordre, qui élève un peu la voix quand ça devient trop compliqué et qu'on provoque trop de fautes. Maintenant, le patron pour l'instant, personne ne se définit vraiment. On a des forts tempéraments, on va dire, hein. Mais il n'y en a pas un qui est on va dire plus fort que les autres pour prendre le dessus. Alors, on se dit toujours que bon, on est dans la saison régulière et que le mal, il vaut mieux l'avoir maintenant que plus tard. Mais bon, on espère tous, et les joueurs les premiers, parce que ils n'ont pas vraiment d'explication, hein, ils veulent jouer, et quand tu joues trop dans des moments où tu dois justement calmer le jeu, ben, tu tombes des ballons. Donc oui, effectivement, il manque peut-être une tête pensante qui passe au-dessus des autres pour remettre tout le monde dans le sens. Mais c'est difficile. Personne ne se définit vraiment en ce moment, quoi.
Alors il y a ce déplacement dimanche à Isle-sur-Tête que vous pourrez suivre sur Radio Marseillaise grâce à un certain Jean-Paul Marquet qui nous fera vivre il me donnera à moi l'évolution du score. Hein. Alors quand même un déplacement périlleux. Bon, Isle-sur-Tête c'est pas Pia, mais enfin quand même il y a du monde. Là il faut à tout prix, il faut que Villeriennes gagne à tout prix.
Oui, voilà, il faut que c'est l'objectif, les joueurs le savent, les dirigeants ont fait passer le mot aussi. C'est vrai qu'il est important de gagner chez un concurrent direct parce que ils ont malgré tout une bonne équipe, ils inquiètent pas mal d'équipes. Maintenant, on se doit, nous, VAR, d'être supérieurs sur ce match, de gagner. Maintenant, on sait très bien que toutes les équipes, dès qu'elles rencontrent le VAR, c'est un peu la mission à faire. Quoi, parce qu'on le voit, les équipes sont toujours plus agressives contre nous. Voilà, parce qu'on est un peu l'équipe à battre. Mais bon, il faut assumer ce statut de favori et ça passera évidemment par une victoire et un bon match dimanche.
Alors où allez l'effectif de Villeriennes-Aragon? Bon, au niveau blessé, est-ce qu'il va y avoir les rentrées? Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, à aujourd'hui, donc il devait faire le point ce soir sur l'entraînement, on n'en sait pas plus. Bon, par rapport à dimanche, je pense que Franco rentrera. Il avait été un peu mis sur le côté. Au niveau des blessures, il n'y a pas de grosses blessures. Le seul truc, c'est les tests de demain. Quoi. C'est, ouais. On est plus inquiet par les tests. Et par le... Ouais, voilà. Donc là, c'est la loterie. Là, à aujourd'hui, on est tranquille. Mais bon, le vrai test, ce sera demain. Au niveau de l'effectif, on devrait partir sur un effectif, à part Delgado qui était encore en souffrance. Mais après, on devrait partir sur une équipe très compétitive. Maintenant, voilà, comme dans toutes les équipes et dans tous les sports, on est tributaire d'une chose que tout le monde ne maîtrise pas.
Oui. Alors, il y a quand même, on a remarqué, quand même, la montée en puissance, les deux étrangers, les deux nouveaux, Tonja, et Locke, ils s'intègrent de plus en plus.
Oui, oui, oui. c'est ils ont envie de bien faire, hein, notamment Loquin, qui il a l'air un peu empâté comme ça, mais il commence à prendre un peu la main. Après, voilà, il est quand même sûr. Et là, c'est vrai que ces deux garçons qui ont été très bien intégrés au groupe, le groupe vit bien malgré tout, hein, malgré ces petits défauts qu'on a sur le terrain, malgré tout, on a un groupe qui vit bien. Et c'est vrai que les étrangers, enfin, notamment ces deux étrangers, ils sont un peu chez eux déjà un peu de temps, parce que voilà, tout se passe bien autour, quoi.
Denis.
Oui, moi je pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au début là, Roger et toi, Jean-Paul, pardon. Ouais. Moi je me demande s'il manque pas quelqu'un sur le banc pendant tout le match, parce que je me demande si Vincent Anderson, que c'est un joueur, c'est une personne que je respecte par-dessus tout, un grand joueur de talent, la preuve, mais est-ce qu'on lui demande, il est entraîneur, joueur, et quand il est, et, bon, il est obligé d'être sur le terrain, parce que, encore une fois, la semaine dernière contre Entraigue, si c'est pas lui à un moment donné qui prend le ballon et qui fait une 40-20, c'est vrai que c'est un garçon qui a l'habitude, hein, qui sait jouer, mais c'est oui. Peut-être pas tout à fait son rôle, je sais. Mais à un moment donné, s'il prend pas lui cette démarche de faire le 40-20 et derrière vous marquez la victoire, peut-être vous perdez ce match. Donc, mais il peut pas. C'est justement quand on parlait tout à l'heure du patron, il peut être. Alors il y a Franco peut être ce patron. Il n'était pas la semaine dernière. Vincent Anderson, ça n'est. Mais est-ce que derrière, sur le banc, Vincent, il est Anderson, il n'est pas sur le banc pour... Donc voilà, est-ce que là, il ne manque pas quelque chose, je ne sais rien. Je sais, toi, tu connais bien, tu as été joueur de haut niveau, tu as été entraîneur, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Franchement, pour moi, le VAR, c'est une énigme, hein, je le dis.
Oui, c'est... Bon, voilà, donc, alors, c'est... Bon, moi, j'ai toujours été plus ou moins opposé au fait que un entraîneur joue. Ça c'est une chose. Maintenant, c'est comme ça au VAR. C'est pas Jean-Paul Marquet qui va tout chambouler. Voilà. Une chose sûre, c'est que c'est vrai que il manque un patron déjà sur le terrain, plus ou moins, sauf quand il y a Vincent qui est sur le terrain, et encore. Hein. Mais c'est vrai qu'après, sur le terrain, on ne peut pas avoir la lucidité d'être sur le terrain et de voir ce qui se passe autour. Donc c'est une chose qui a été évoquée, mais à aujourd'hui, on n'a pas... Il s'en parle. Quoi qu'il arrive, il s'en parle. On voudrait éventuellement que Laurent Luquez prenne un peu plus de place, justement, sur le banc, car il y est en tant que préparateur physique, mais il n'est pas en tant que patron ou homme fort du terrain, pour plein de raisons, voilà. Mais il est vrai que c'est un souci, parce que on le sait tous, et moi le premier, comme je viens de le dire, on ne peut pas être sur le terrain, s'occuper du jeu à faire, de voir s'il y a un gars qui est un peu en difficulté physiquement, si le banc est trop excité et qu'il faut le calmer. Il y a plein de choses comme ça qui font que on a une lacune à ce niveau. Moi le premier, je l'admets. Voilà, bon. Donc on va. C'est en réflexion. Quoi qu'il arrive, c'est. On en a parlé, mais bon. Voilà, comme je dis, ça ne se changera pas du jour au lendemain, certainement, à moins qu'il y ait un cataclysme dimanche.
D'accord. Alors Jean-Paul Marquet, on va terminer sur on va toujours parler de Villain Aragon, l'équipe réserve qui s'en va à Val-d'Aubieu, et un sacré match là aussi.
Oui, là aussi, alors L'équipe réserve, c'est toujours un peu une énigme pour quelques dirigeants, et de plus en plus. C'est que, voilà, déplacement, les gars s'entraînent, mais bon, l'effectif est réduit, on l'a vu encore dimanche. On s'en va avec 13 joueurs, un remplaçant qui descend de l'élite 2, un autre qui n'y va pas. C'est une équipe qui... on ne sait pas trop. Voilà. Les garçons qui sont là, toujours les mêmes, sont de bonne volonté, ont envie. Moi, je suis persuadé que ce groupe, s'il était plus sérieux, pour certains éléments, mais je parle... parce que bon, il y en a quand même qui sont qui font le job. Hein. Mais je suis persuadé que c'est une équipe qui aurait un peu plus de potentiel que ce qu'elle a actuellement. Parce que voilà, on a des gars qui ne viennent pas systématiquement dans les déplacements. C'est compliqué de maintenir cette équipe. Maintenant. Il y a un match à les faire, ils sont motivés pour le faire, mais bon, voilà, c'est là-bas, un contexte différent, donc on verra, on espère que déjà on aura un groupe suffisamment étoffé pour aller concurrencer cette équipe, voilà, parce que voilà, si on est de nouveau 12-13, on sait bien que la fatigue payera à un moment donné. Hein.
Oui. Alors ce match, vous avez des extraits grâce à notre ami Alain Gandrieux, le boss, le grand patron du petit journal, oui. Qui me tiendra au courant de l'évolution. Oui. Et puis évidemment, vous pourrez suivre évidemment sur Radio Marseillette. Denis, as-tu d'autres questions?
Non, je pense qu'on a fait le tour en espérant que je pense que je pense que dimanche, ce premier match en terre catalane, n'oublions pas que le VAR va y aller trois fois hein, dans cette deuxième partie de saison, on avait parlé déjà la semaine dernière, et là c'est Iyaï, Bao et Pia, donc là c'est trois équipes qui tiennent le haut du pavé. Donc là c'est un match, j'espère que les joueurs sont conscients, c'est un match essentiel. Pour la suite de la saison, n'oublions pas qu'il y a les frères Margalet, etc. Ils ont récupéré quelques joueurs de Palo. C'est une belle équipe, il y a sur tête. Donc c'est une équipe catalane. Donc si tu vas là-bas et que tu commets les mêmes, tu fais un match du niveau de celui de la semaine dernière ou de celui de l'Escure, hein, bon, Pia, c'est autre chose, tu es sûr de perdre. Et là, ça va être compliqué à partir de là de viser les deux premières places. Donc, ce week-end, c'est un match charnière, pour l'heure. Alors, c'est pas. La saison est encore longue, hein, mais c'est un match extrêmement important et on attend tous une équipe de cette équipe du VAR, que les joueurs montrent enfin sur le terrain ce qu'ils sont égaux de ce qu'ils font sur le papier. Oui. Voilà.
C'est ce qu'on attend tous. Voilà. On l'espère. On en a parlé, et puis bon, voilà, on espère que les garçons en sont conscients aussi, hein, faut pas non plus dire qu'ils sont pas conscients, ils savent très bien que en ce moment, ça tourne pas bien, qu'il y a des fautes, on va pas dire d'école de rugby, mais ben, oui, on fait trop de fautes, quoi, hein, on fait trop de fautes, des fois... on s'emballe parce qu'on vient de faire une belle action, donc on s'emballe, donc on croit que toutes les passes impossibles sont possibles, malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est pénible. Donc
Oui, j'aime pas juste... je me permets de dire quelque chose, mais moi, il faut que la charnière joue son rôle. Alors, le retour de Lufranco va certainement permettre de poser le jeu, mais je pense que la charnière doit jouer. Je pense que quand il y a des joueurs de la qualité que vous avez dans l'effectif, il faut que la charnière joue son rôle. On sait qu'à 13, c'est essentiel. Et bon,
Bon, on attend beaucoup d'elle ce week-end, moi, il me semble.
Ah ben oui, oui, il va falloir qu'ils prennent le jeu en main et pas être uniquement passeur pour les autres joueurs. Quoi, hein. Donc, oui, je pense que... Bon, en plus, Franco, il va revenir un peu sur ses terres, donc il va avoir quand même à cœur de montrer son esprit catalan. même si il va habiter bientôt pas loin de Limoux. Ah.
D'accord, très bien. Très bien.
Catalan limoxène de plus. Bah.
Merci.
Ouais, voilà, il faut construire. C'est tellement. Vous comprenez bien, c'est tellement bien à Limoux. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de venir.
mais c'est vrai.
Merci Jean-Paul, allez, on se retrouvera nous dimanche. Jean-Paul. Pour vous faire
on se retrouve dimanche.
Merci Jean-Paul.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci Jean-Paul.
Au revoir. Alors il y a une nouvelle dernière pause pub. Et après je pense que Denis a peut-être quelques infos internationales. Je sais qu'il se régale, qu'il se creuse la tête grâce à notre ami Thierry. Vous allez voir vos infos internationales. Eliane.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par... Vous êtes à la recherche d'une poissonnerie à Carcassonne ? Sabine et Thierry Banquet vous proposent une grande variété de poissons frais et ses plateaux de fruits de mer à emporter. Mais également ses plats cuisinés, paella, encornets farcis, bouillabaisse ou encore lotte à l'américaine. Fraîcheur et qualité au rendez-vous. Sabine et Thierry Banquet, 110 avenue du Général Leclerc, 04 68 25 43 85.
Issus de 7 générations de menuisiers dans l'Aude, sur Carcassonne et Villegagnac, l'ASARL Menuiserie Tiquet et Fils vous propose une réalisation parfaite de qualité pour vos portes, fenêtres, claustrats, armoires et blocs de rangement. Aménagement divers et cuisine, multi-travaux spécifiques, de la conception à la pose. SARL Tiquet et Fils, menuisier aménageur, avenue du Lauragais, 11 600 Villegagnac, 04 68 77 14 08 et info@tiquet.fr ou site internet www.tiquet.fr.
Bardou Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty, Magali et Dominique de l'agence Bardou Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardou Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne.
L'épicerie fine chez Julien à Carcassonne vous attend le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop.
Très large gamme de vins du Languedoc.
Un grand choix de blanquettes.
Un espace fromage en partenariat avec la fromagerie toulousaine du meilleur ouvrier de France.
Et pour vos plateaux entre amis, pensez à la charcuterie et au jambon ibérique ainsi que noir de Bigorre et noir gascon.
Pour réaliser toutes vos idées cadeaux, Corinne et Julien vous réservent un accueil chaleureux.
Chez Julien, 100 chemin de Mâquin à Carcassonne.
04 68 26 34 32.
Suite et fin de 13 passions avec Denis et Roger.
Alors Denis, as-tu quelques infos internationales à nous donner?
Mais bien sûr Thierry, moi je ne suis que le porte-parole dans cette affaire, donc Thierry nous a envoyé trois belles infos internationales. Alors le programme, il y a nouveaux programmes de rugby à 13 scolaires au Monténégro, en Bosnie et en Turquie. Trois pays qui travaillent, qui veulent se développer à part le niveau scolaire. Hein, ils ont tout à fait raison. Alors par exemple, au Monténégro, la ligue de rugby à 13 travaille avec des U12, des U13, des U14 dans 5 écoles des villes de Tivat et Kotor, dans le cadre d'un programme dirigé par Milar Boskovic, qui est joueur de l'équipe nationale du Monténégro et qui est enseignant d'éducation physique et qui a terminé son cours qui a actuellement le cours d'entraîneur de niveau 1 de l'European Rugby League, donc voilà, depuis le mois de septembre. Le président de la Ligue du Monténégro, vous savez que le Monténégro, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie, comme Roger, par exemple, c'est un petit pays qui est né de la scission de la Yougoslavie. Bon, il y a eu la guerre, etc. Alors maintenant, tout ça s'est un peu calmé.
Et donc, voilà. Donc, le président de la Ligue de rugby à 13 de Monténégro dit « Notre objectif est d'étendre notre développement et de commencer à travailler avec les jeunes afin de créer deux autres clubs et de lancer une compétition nationale. » Le Monténégro, lui-même, est peu peuplé, mais très bon dans les sports d'équipe. Nous poursuivons la coopération avec les autres nations des Balkans. D'autres écoles devraient rejoindre les zones balnéaires, dans les zones balnéaires d'Herceg-Novi, Budva et Bar, sur la capitale Podgorica et sur d'autres villes de Nikšić et Cetinje. Excusez-moi, je ne parle pas le monténégrin. Voilà, donc ça c'est pour le Monténégro. La Bosnie-Herzégovine également, qui est un autre pays qui est issu de l'explosion de la Yougoslavie, où la guerre là a fait rage, hein, a lancé là elle aussi une promotion dans les écoles de la ville de Vitez, en coopération avec le club local. Il va y avoir, c'est en prélude au lancement de la compétition U14 et U15. Là aussi, donc, c'est des projets qui étaient déjà, par rapport à Bosnie-Herzégovine, c'est un projet qui était déjà en préparation, qui a été repoussé par le Covid. Et maintenant, ils pensent qu'ils vont pouvoir le mettre en œuvre. En particulier, ce qui est important aussi, ils ont obtenu deux subventions d'aide directe pour le développement de la jeunesse, à travers l'ambassade d'Australie à Vienne. Voilà, donc, et ils vont essayer, là aussi, en Bosnie-Herzégovine, de développer le programme dans toutes les régions où il y a des clubs de rugby à 13 qui ont commencé à se créer. En Turquie, le programme de la Turquie est centré sur la banlieue d'Istanbul, dans ce qu'on appelle le Beşiktaş, où il y a un grand club de football, il est dirigé ce programme par le directeur de l'équipe nationale et entraîneur à chef de l'équipe nationale de Turquie, Julien Treu. Le projet de créer la Beşiktaş Rugby League Academy, voilà, donc sur Beşiktaş, de créer donc une école, une académie de rugby à 13. Ensuite, autre information. Alors aussi, qui est très importante, l'European Rugby League, la Ligue Européenne de Rugby à 13, lance un appel d'offres pour la création au pays européen, parce que pour savoir quel est le pays européen qui serait prêt à accueillir en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, un championnat d'Europe des nations à 9. Ils veulent élargir le paysage de la compétition internationale. Donc l'European Rugby League est à la recherche d'un pays qui serait capable de démontrer sa capacité à organiser ce tournoi. Et donc parce que c'est vrai, comme évidemment le rugby à 9, on sait que ça devient quelque chose qui intéresse beaucoup les pays, surtout les pays émergents, parce que évidemment, avant d'arriver à pouvoir avoir des équipes à 13 compétitives, c'est plus facile peut-être de passer par le 9. Donc, il prévoit que ce championnat pourrait avoir des compétitions masculines et féminines en même temps. Voilà, donc, ça serait un championnat d'Europe à 9. Donc, voilà, alors maintenant, on attend qu'un pays, c'est un appel d'offres, on attend qu'un pays ou plusieurs, se propose pour organiser ce championnat d'Europe. Et enfin, pour la dernière info, on part en Afrique, au Ghana, où là sont le calendrier des rencontres, la Fédération de Rugby League a annoncé leur calendrier de rencontres pour 2022. En janvier, là, le 16 janvier, ça a débuté avec un événement qui a été un festival de touche rugby à l'Université du Ghana, à Legon. Au même endroit, le 13 février, donc un mois plus tard, la même université accueillera un événement de Long Tag Rugby League. Voilà, ensuite il y aura une série de tournois à 9 qui se dérouleront du 13 mars au 10 avril, parallèlement au match Inter-Halls de l'Université du Ghana. Ouais, on voit qu'on travaille beaucoup avec là-bas, d'un côté, avec les jeunes, avec les écoles, avec les universités, les championnats masculins, féminins, juniors, étant désignés, devant se disputer du 1er mai au 1er juillet. Ensuite, il y aura un match d'origine le 27 août, et pour sélectionner l'équipe nationale qui disputerait le championnat d'Afrique du Moyen-Orient en septembre. Voilà, donc, d'ailleurs, l'équipe du Ghana, actuellement, va s'entraîner, dans tous les cas, d'ici les mois qui arrivent, deux fois par mois, et donc la saison se terminerait début décembre avec un tournoi de plage. Voilà, au niveau du Ghana, voilà, on essaye de faire des efforts, un peu partout, hein, chaque fois on s'aperçoit, et on passe par les jeunes, voilà, on essaye de baser les fondations dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, et aussi bien pour les garçons que pour les filles. Voilà, pour remercier Thierry pour ces trois belles infos internationales au niveau de pays différents.
Oui, Denis, tu as bien fait de citer monoculture en géographie. Il est vrai que toi, qui as un master en langue catalane, puisque ça fait 80 ans que tu as déménagé dans les PO et que tu faire la sardane catalane, c'est très bien. Allez, on va rappeler pour terminer, Denis, les rendez-vous quand même ce week-end. Allez, à toi,
parce que pour la reprise, là, c'est vraiment un week-end chargé, puisque demain, à 16h30, en direct avec mon ami Roger, on vous fera vivre le déplacement du 13 Limousin à Saint-Estève pour affronter les Dragonnettes, hein, la réserve des Dragons, dont on parlait tout à l'heure, qui va être renforcée par 4 ou 5, on sait pas, joueurs des Dragons catalans. Donc, un match extrêmement important. Limoux qui reste sur cette défaite à Villeneuve il y a 15 jours. Donc, il va disputer un match important. Donc, Roger, on sera à l'antenne, 16h30, pour faire vivre cette rencontre. Et puis dimanche à 15h, ça va débuter 15h, championnat de France et Ligue 1. Le déplacement, nous pourrons suivre grâce à un dirigeant de Lézignan qui sera sur place, puisque notre ami Jean-Claude Bousquet, ne pouvant pas se déplacer, Lézignan se déplace à Saint-Gaudens. Donc, c'est un match qui devrait être disproportionné, hein, parce que le premier qui va chez le dernier qui n'a pas gagné un match, mais bon, nous suivrons cette rencontre grâce à ce dirigeant qui appellera régulièrement notre ami Elian et qui lui fera part. Je pense qu'il l'appellera souvent parce que des essais, il va y en avoir pas mal. Donc ça à partir de 15h. Également à partir de 15h, Roger, en élite 2, aura, on vous l'a dit là tout à l'heure, vous fera des points réguliers sur les performances de Villegaïen Aragon 1 en déplacement à IE sur tête. Également à partir de 15h, là, ça va être le gros embouteillage, hein, puisque Alain Andrieux nous fera suivre également, nous fera des points réguliers sur le déplacement de la réserve de Villegaïen Aragon 2 au Val d'Orbieu. Donc là, un derby en fédéral qui promet. Et puis, à partir de 16h30, toujours dimanche, eh bien, on se retrouvera en direct du stade Albert Domecq, où je serai. Il y avec me rejoindra également pour vous faire vivre la rencontre entre le retour, on va dire, de Carcassonne 13 et du SO Avignon sur le stade Albert Domecq, 16h30 dimanche, voilà. Ça en fait, du rugby à 13.
Oui, ça fait beaucoup de matchs.
Si après ça, Radio Marseillette n'est pas élu définitivement Radio de rugby à 13, il n'y a plus rien à comprendre, Roger.
Oui, il n'y a plus rien à comprendre, c'est vrai. Tu as raison. Voilà, l'émission se termine, hein, et bon, on est bien contents. Bon, on rappellera que l'e-sport va diffuser, rediffuser la Super League, évidemment, et la NRL, et ça reprend jeudi pour les Catalans et samedi pour le Toulouse Olympique. Hein. Oh, on va avoir des week-ends, Denis, extrêmement chargés,
Bon, on va foutre la paix à nos compagnes, hein, Denis, elles seront tranquilles, bon. Et nous foutons la paix,
ouais.
Bon.
Parle pour toi, voilà. Parle pour toi. Non, mais voilà, alors. Non, juste si on peut donner une précision, voilà, autant pour les Dragons catalans, tout ce début de saison en Super League, même s'ils vont démarrer à Sainte-Hélène chez le champion en titre, ça va être la revanche de la finale l'an dernier, hein, mais bon, c'est vrai qu'au niveau des Dragons catalans, tous les feux sont ouverts, même s'ils ont perdu Mourgues pour 3 mois, hein, mais bon, à part Mourgues, tout l'effectif est présent, donc... McNamara, ils vont pouvoir aligner une grosse équipe à Sainte-Hélène. Du côté de Toulouse Olympique, pour le démarrage en Super League, on sait que, bon, ben, on ne sait pas trop avec comment l'effectif, quel sera l'effectif qui sera aligné, puisque, on le rappelle, Jonathan Ford, le demi d'ouverture historique de cette équipe du Toulouse Olympique, qui était là depuis une dizaine d'années, eh bien, bon, pour des raisons personnelles, on va dire. A décidé d'arrêter et de rentrer dans son pays au Tonga, donc de quitter la France, dont il ne sera pas là. Apparemment, le Théo est en recherche de remplaçant pour Jonathan Ford, en Australie, enfin, pour l'instant, il n'y aura pas, pour le premier match, il n'y aura pas. Et puis, après, on a des points d'interrogation concernant aussi une autre vedette, un autre historique de ce club, c'est Marc Regala. Qui aussi deux ou trois autres joueurs, on ne sait pas trop, on attend avec impatience de voir si ces joueurs-là vont pouvoir être alignés, parce qu'il ne faudrait pas que Toulouse soit handicapé par un effectif très juste. Alors pour les premiers matchs, bon, ça peut le faire, mais après, s'il y a des... En plus, oui, ils ont perdu, oui, Jusson, le 3/4 centre français là, s'est brisé le Péro, je sais pas si c'était le Tibia ou le Péranée, la semaine dernière, lors du match de préparation chez les Dragons catalans, donc il va être absent lui aussi pendant 3 mois. Donc voilà, tout ça fait quand même roger des nuages qui s'amontèlent autour de l'effectif de Toulouse. Donc on va voir avec intérêt cette équipe toulousaine débuter la Super League, mais un intérêt et aussi un peu de crainte. Il nous tarde d'être rassérénés à ce niveau-là.
Et bon, voilà, c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous pour tous ces matchs. Ça commence jeudi et ça va se terminer dimanche. Quel programme, hein. Voilà, merci Eliane.
Je vous en prie.
Merci Denis. Merci
nos auditeurs. Et à demain.
Ah oui, demain, oui. 16h30.
16h30.
Voilà. Ciao, ciao.
16h30. Ciao, ciao.
Ciao,
bonne
ciao.
Bonne soirée à tous.